Chapitre 11. Agatha appela Bill Wong pour l'informer qu'elle était de retour à son cottage, lequel fit part de la nouvelle à son supérieur. Or, Wilkes était toujours remonté contre Agatha à cause de toute cette publicité que lui avaient fait les journaux. Jugeant qu'elle avait ridiculisé la police, il dit à l'inspecteur Wong qu'il était inutile d'affecter un agent à la surveillance de son cottage, vu que Walt ne risquait pas de se repointer de sitôt dans les Cotswolds. En vain, Bill souligna qu'un homme obsédé par sa mère au point de buter son fiancé tenterait forcément de revoir Gwen et, qui sait, de se venger d'Agatha. La météo était au beau fixe. Les journées ensoleillées se succédaient. Dans le jardin à l'avant du cottage d'Agatha, le lilas ployait sous le poids de sa floraison. Jeremy ne l'avait pas appelée, bien qu'elle lui eût donné sa carte. S'il l'avait fait juste après le déjeuner, Agatha aurait pu se poser la question de savoir s'il lui plaisait réellement. Mais comme toutes les romantiques immatures, elle était accro à la chasse au grand amour et du genre à se faire un film sur un homme qu'elle connaissait à peine. Charles s'était encore absenté. James Lacey était à l'étranger et sans un homme près d'elle, Agatha se sentait diminuée. Et puis, elle avait besoin de quelque chose qui l'empêche de penser au fait que Walt courait toujours. Roy débarqua un week-end se plaignant d'avoir eu à s'occuper d'un site internet pendant la période de gloire médiatique d'Agatha. À la stupéfaction de celle-ci, son ancien assistant était avide d'autopromotion au point d'être jaloux d'elle. Il ne l'avait pas prévenu de son arrivée et elle fut tentée de lui dire qu'elle avait trop à faire pour pouvoir s'occuper de lui. Mais elle se sentait seule. Roy portait une veste en tweed, un pantalon en velours côtelé et une chemise à carreaux. Agatha lui demanda pourquoi il était vêtu de manière si classique, lui qui l'avait habitué aux tenues excentriques. « Je m'occupe des relations publiques d'une boutique de leurre pour pêche à la mouche, au paradis du pêcheur. Crois-moi, je suis fascinée par l'idée de me mettre à pêcher. J'ai même pris 2 ou 3 cours de pêche à la mouche. J'ai une surprise pour toi. J'ai 2 cannes à pêche dans la voiture. Que dirais-tu d'aller taquiner le poisson ?»«
Je n'y connais rien. »
« Je vais t'apprendre !» répliqua Roy avec enthousiasme. « J'ai fait une halte à Merchester et j'ai dégoté 2 permis de pêche pour le cours supérieur de la mire.
Ça pourrait être marrant, non ?»
Agatha n'hésita pas longtemps. C'était une si belle journée.
« D'accord, » céda-t-elle. « Je te regarderai faire. »
« J'ai même le panier pique-nique du pêcheur, version de luxe. Ils m'en ont fait cadeau. »
« Ça fait drôlement envie. Allons-y. »
Ils s'installèrent au bord de la rivière. Au milieu du cours d'eau, des hommes pêchaient équipés de cuissards. « Pourquoi ne restent-ils pas comme nous, confortablement installés sur la rive ?» s'étonna Agatha. À peine Roy eut-il lancé sa ligne qu'Agatha eut la réponse à sa question. La rivière était bordée d'arbres. L'hameçon se prit dans les branches. Roy mit un temps fou pour le récupérer. « Tu n'as pas de cuissarde comme tous ces autres gars ?» demanda Agatha.
« J'en ai dans la voiture, » bougonna Roy. « Je ne sais pas nager. »
La rivière est peu profonde, elle leur arrive juste au-dessus du genou. Roy alla à la voiture et revint, les cuissardes à la main.
Déjeunons d'abord, décida-t-il.
Le panier repas était délicieux et contenait même une bouteille de vin.
Le temps qu'on rentre, les effets de l'alcool se seront dissipés, fit remarquer Agatha.
Ça s'affichera quand même sur l'alcotest, et c'est toi qui conduis.
Ok, je vais me contenter d'un verre.
Alors qu'ils déjeunaient, le soleil disparut parmi les nuages et un léger vent agita la surface du cours d'eau.
« On ferait peut-être mieux de rentrer, » dit Agatha. « Il commence à faire frisquet. »«
C'est mieux pour pêcher. » Pendant qu'Agatha rangeait les restes du pique-nique, Roy enfila ses bottes de pêche, saisit sa canne et s'enfonça précautionneusement dans la rivière. La première chose dont il prit conscience, c'est que les autres pêcheurs devaient être grands, parce qu'à lui, l'eau arrivait à la taille. Et puis, il y avait un fort courant. C'est un autre pêcheur qui constitua sa première prise. L'homme traita Roy de tous les noms, alors que ce dernier se répandait en excuses et s'efforçait de détacher son hameçon de la veste de l'homme.
« Non mais tu vas me lâcher, petite pédale !»
rugit l'homme.
« Je vais porter plainte !» hurla Roy. « C'est de la diffamation !»
Sur la berge, Agatha poussa un soupir et regretta d'être venue. Soudain, elle sentit une menace toute proche. Elle se retourna, mais ne vit rien parmi les arbres. Roy avait une prise. Son visage était rouge d'excitation, tandis qu'il s'efforçait de remonter le poisson. Un coup de feu se fit entendre. Au même instant, Roy tomba face la première dans la rivière. Agatha envoya valser ses chaussures et plongea. «
Appelez la police !» cria-t-elle. « On lui a tiré dessus !» Les pêcheurs et Agatha aidèrent Roy à se remettre d'aplomb. « Tu es touché ?» demanda Agatha. « Comment ça touché ? Un fichu poisson m'a entraîné vers le fond et s'est taillé avec ma canne à pêche !»« Sorte de cette rivière !» ordonna Agatha. « Quelqu'un vient d'essayer de te tuer !» Elle se tourna vers les autres pêcheurs. « Que personne ne bouge, j'appelle la police !» La police arriva très vite sur les lieux et commença à fouiller parmi les arbres. Agatha et Roy étaient trempés de la tête aux pieds. Quatre pêcheurs se tenaient autour d'eux, qui attendaient en trépignant. L'un d'eux dit à Roy.
« Avec son imagination débordante, votre mère nous a gâché une belle journée de pêche !»«
Je n'ai rien imaginé !» rugit Agatha. « Et ce n'est pas mon fils !» Les deux premiers agents parvenus sur place furent vite rejoints par d'autres. Puis, au grand soulagement d'Agatha, arrivèrent Bill Wong et Alice Peterson.
« Vous aviez raison, » dit Bill. « On vient de trouver une cartouche de fusil de chasse. Quelqu'un a pu vous tirer dessus et vous rater. »
Puis s'adressant aux pêcheurs.
« J'aurais besoin que vous me donniez vos noms et adresses une fois que j'aurai pris vos dépositions.
Agatha et Roy, vous pouvez aller vous changer avant de passer au poste. Un véhicule de police va vous escorter. » Dès qu'ils furent dans la voiture, avec le chauffage réglé à fond, Roy sortit son portable.
« Tu me ranges ça tout de suite !» ordonna Agatha. « J'ai eu ma dose rayon média !»
Roy avait des vêtements de rechange, vu qu'il comptait passer la nuit au cottage. À peine eut-il pénétré dans la chambre d'amis qu'il appela depuis son portable toutes les chaînes et rédactions qu'il connaissait, jusqu'à ce qu'Agatha lui crie que la police les attendait pour les conduire à Mercer. On interrogea Roy et Agatha séparément. Cette fois-ci, Agatha n'eut pas seulement affaire à Wilkes, mais aussi au commissaire Bloggs. Un homme adipeux, flottant dans un costume informe. Agatha trouvait qu'il portait bien son nom. On revit avec elle, point par point, son récit des événements. Puis Bloggs dit
« On se demande si ce n'est pas sur vous qu'il a tiré. C'est peut-être Walt Simple qui cherche à se venger. »
Je vous jure que c'est Roy qui était visé, allez savoir pourquoi. Il s'était bien avancé dans la rivière et se trouvait à bonne distance de moi sur la gauche. Ça ne peut pas être Walt. Pourquoi voudrait-il tuer Roy ?»«
Mr. Silver est très efféminé, » fit remarquer Bloggs.
« Il est gay ?»«
Aucune idée, » répondit Agatha. « Je ne vois pas le rapport. »
« Ça n'a peut-être rien à voir avec Simple, » répliqua Bloggs.
« Savez-vous si Mr. Silver a quelqu'un dans sa vie ?»«
Non, mais si c'était le cas, aurait-il envie de passer le week-end avec moi ?»«
De quelle nature sont vos relations avec Mr. Silver ?»«
C'est mon ancien assistant, rien de plus. » »«
Vous en êtes certaine ?»«
Écoutez, » dit Agatha d'une voix lasse, « je suis assez vieille pour être sa mère. » »«
Ce qui ne veut pas dire que vous ne couchez pas ensemble. » insista Bloggs. «
Je m'en vais !»
Agatha se leva.
« Je ne tiens pas à écouter plus longtemps vos insanités. »
« On devrait lui accorder une protection policière, » dit Wilkes quand elle fut partie. Mais Bloggs en voulait à mort à Agatha qui ne l'avait pas traitée avec la déférence à laquelle il était accoutumé.
« Elle peut bien crever !» répliqua-t-il avec violence.
« Mais supposez que c'est Simple qui en a après elle !» protesta Wilkes.
« En la surveillant, on a une chance de choper ce salaud d'assassin !»
Bloggs, qui avait pour surnom l'ego sur pattes, refusa de se laisser ébranler. Au grand désarroi de Roy, on les fit discrètement sortir par l'arrière du bâtiment pour éviter qu'ils croisent les journalistes. Roy n'était pas au bout de ses déceptions, Agatha ayant prié les agents de les déposer tous deux au presbytère et de ne surtout pas approcher le cottage. Mrs. Bloxby les invita à entrer dans son salon confortable et écouta horrifiée le récit qu'Agatha lui fit de l'incident. Roy trépignait, se rongeant les ongles.
« Je vais aller vous chercher un bon verre de sherry, » annonça Mrs. Bloxby.
« Je peux utiliser votre salle de bain ?» demanda Roy.
« Bien sûr, vous savez où elle se trouve. »
Roy alla dans la salle de bain et ferma la porte à clé. Si sa mémoire était bonne, la fenêtre en verre dépoli donnait sur le cimetière. Il l'ouvrit, sauta et s'enfuit à travers les tombes. Il ne s'arrêta pas de courir avant d'avoir atteint le cottage d'Agatha et la foule avide des journalistes, à qui il accorda joyeusement interview sur interview. Agatha aurait préféré un gin tonic, mais c'était comme ça. Presbytère et chérie étaient indissociables. Le pasteur entra dans le salon.
« Qui est dans la salle de bain ?»«
Mr. Silver, » répondit sa femme.
« Je n'arrête pas de secouer la poignée, mais il refuse d'ouvrir la porte. »«
Il est peut-être constipé ?» suggéra Mrs. Bloxby.
« Eh bien, moi, je ne le suis pas !»
hurla le pasteur.
« Vous, Mrs. Raisin, faites-le sortir immédiatement !»
Suivi par Mr. et Mrs. Bloxby, Agatha alla à la salle de bain, frappa, secoua la poignée.
« Tout va bien, Roy ? »
cria-t-elle. Silence.
Je vais le tuer, ce petit crapaud !»
grogna le pasteur. Il s'éclipsa et revint armé d'un burin qu'il inséra dans le cadre de la porte pour faire levier. Le bois craqua, la porte s'ouvrit. Pas de Roy. Mais ils remarquèrent immédiatement la fenêtre ouverte.
Il est parti trouver les journalistes. Eh bien, bon débarras. Vous voulez bien sortir et me laisser utiliser les toilettes ?
Dit le pasteur.
Mrs. Raisin, vous ferez parvenir la note du serrurier.
La charité chrétienne y connaît pas ? Demanda Agatha contrariée à Mrs. Blugsby, alors que les deux femmes s'empressaient de regagner le séjour.
Pas quand ses intestins sont en jeu. Dites, votre agriculteur s'appelait bien Paul Newton ?
Oui.
Dans le journal d'hier, ils annonçaient son mariage.
Ah oui ? Et avec qui ?
Une certaine Caroline Fitherington.
Grand Dieu ! C'était la fiancée de Charles !
Je me demande ce qu'il va penser de ça. Elle espionnait Charles et c'est pour ça qu'elle a rompu ses fiançailles. Elle m'a vu dîner avec lui et puis il est resté dormir. C'est la deuxième fois que ça se produit. Je me sens coupable.
Vous ne devriez pas. Si Sir Charles avait vraiment tenu à l'épouser, il aurait fait en sorte qu'elle vous rencontre et tout aurait pu s'expliquer. Vous avez quelqu'un en ce moment ?
C'est le désert. J'espère que Walt n'a pas l'intention de m'assassiner. Mais pourquoi aurait-il tenté de tuer Roy ?
Il a peut-être cru que Roy était votre fils et que sa mort vous ferait horriblement souffrir.
Possible, concéda Agatha. Mais je ne désespère pas que la police découvre que celui qui a agi n'est qu'un cinglé sans aucun lien avec les meurtres.
Vous ne voulez pas dormir ici ?
Demanda Mrs. Blugsby. Avant qu'Agatha ait pu répondre, retentit la voix du vicaire.
Satanée bonne femme !
Et il claqua la porte de son bureau derrière lui.
Honnêtement, dit Agatha, fâchée pour de bon, si jamais je remets les pieds à l'église et que j'entends votre mari prêcher la charité et le pardon, je vous promets qu'il m'entendra.
Elle retourna à son cottage. Ignorant Roy et la foule des journalistes, elle monta dans la chambre d'amis. Elle prit le sac de voyage de Roy, le descendit et le posa sur les marches du perron, avant de refermer la porte, esquivant les questions des reporters. Agatha entrait dans la cuisine quand le téléphone sonna. Elle décida de décrocher, les médias n'ayant pas son numéro qui était sur liste rouge. C'était Roy.
Tu ne veux pas me laisser entrer que je puisse t'expliquer ? Les journalistes veulent une photo de nous deux ensemble.
Agatha lui raccrocha au nez. Elle avait besoin de ne plus penser ni au meurtre, ni à tout ce cirque. Le lendemain était un samedi ensoleillé. Elle nourrit ses chats et les laissa sortir dans le jardin. Le parfum des fleurs embaumait l'air. Des clématites blanches aux corolles grosses comme des assiettes pendaient au-dessus de la porte. C'était quoi déjà le nom du village où se trouvait la boutique d'antiquités de Jeremy ?
Welton Magna, oui, c'était ça.
Elle retourna chercher son iPad dans la maison, le prit avec elle dans le jardin et rechercha l'itinéraire. Puis, Agatha remonta et se changea, optant pour une robe courte en coton au décolleté plongeant, qu'elle assortit d'une paire de sandales à lanière et à talons hauts, et d'une veste bleu marine en soie sauvage. Enfin, après avoir rajusté son maquillage, elle descendit affronter les journalistes toujours embusqués devant sa porte.
Je suis certaine que Roy Silver vous a dit tout ce qu'il y a à savoir,
déclara-t-elle d'une voix ferme. Les bousculant, elle alla jusqu'à sa voiture, s'y engouffra et démarra. En lisière de Walton Magna, elle se gara en bord de route et resta un moment à se demander si elle ne ferait pas mieux de faire demi-tour et de rentrer chez elle. Mais la police, ne lui ayant pas accordé de protection, ça voudrait dire craindre à chaque instant que Walt Simple puisse débarquer. Elle redémarra et entra dans le village. Comme il était à peine plus grand qu'un hameau, Agatha repéra aisément les antiquités Rutherford, la seule boutique de Walton Magna à vrai dire. L'automobile et les supermarchés avaient eu raison de presque tous les commerces du village, désormais reconvertis en cottage d'habitation. Elle fouilla des yeux la vitrine à la recherche d'un objet qui pourrait l'intéresser, croisa son propre fantôme, son reflet dans la vitrine. Elle voulut rebrousser chemin, mais peut-être l'avait-on vu, auquel cas ça paraîtrait bizarre. Alors Agatha inspira un grand coup, poussa la porte et entra. La boutique semblait déserte. Elle passa en revue les objets décoratifs, les horloges, les meubles. Dans un coin, elle remarqua un trumeau à cadre sculpté et doré. Il irait bien avec la déco de ma chambre à coucher, songea-t-elle, et dans le miroir de ma salle de bain, je ne me vois que jusqu'à la taille.
Puis-je vous aider ?
Agatha sursauta et fit volte-face. Devant elle se tenait un jeune homme élégant. Petit et soigné,
Il portait une chemise et un pantalon blanc. Il avait les cheveux clairs, de grands yeux gris et les paupières légèrement tombantes.
« Combien coûte ce miroir ?» demanda Agatha.
« C'est un trumeau George III, attribué à George Cole, estimé à 10 000 livres sterling.
Mince alors, vous ne pourriez pas baisser un peu ?»«
Je ne suis pas le patron, c'est à Mr. Rutherford qu'il faudra demander. »
« Je connais Mr. Rutherford, » dit Agatha. « Nous avons déjeuné ensemble. Il n'est pas là ?»«
Il est sorti une minute. »«
Je vais voir si je trouve autre chose. Je crains que le miroir soit trop cher pour moi. »«
Je vous laisse vous décider. Criez si vous avez besoin de moi. »«
Vous êtes très confiant. Et si j'allais shipper quelque chose ?»«
Vous pouvez y aller. Il y a des caméras de surveillance partout. »
Il lui fit un grand sourire et agita la main. Depuis l'arrière-boutique, parvenait à Agatha la bande-son d'un soap australien. Elle eut soudain un coup de fatigue. « Il ressemble à Puck, » nota-t-elle, et ça rime avec
« Oh, bonjour, Jérémy.
Agatha, quel plaisir de vous revoir. Vous venez pour moi ou pour acheter une antiquité ?»«
Les deux.
Et vous recherchez quoi ?»
Agatha jeta des regards frénétiques autour d'elle. Son regard s'arrêta sur un seau à charbon en cuivre.
« Ce seau serait du plus bel effet devant ma cheminée. Combien ?»
80 livres. Je vous le cède à 60. Il n'est pas très ancien. Je vous l'emballe ?
Pas la peine. Il a une poignée.
Agatha régla par carte et prit le seau.
Vous avez déjeuné ? Demanda Jérémy.
Non.
Je connais un chouette pub près d'ici.
C'est moi qui régale, dit Agatha. La dernière fois, c'est vous qui m'avez invité.
Laissez le seau à charbon ici. Vous repasserez le prendre avant de partir.
Je sors, Perry !
Cria-t-il en direction de l'arrière-boutique.
Ok !
Lui fut-il répondu. Jérémy aida Agatha à monter dans sa BMW. Ils démarrèrent. S'arrêtèrent devant un pub, le Jolly Farmer.
Ils ont des tables dans le jardin, dit Jérémy.
Parfait, je vais pouvoir fumer.
Vous fumez, c'est vrai? Je croyais que plus personne ne fumait ces temps-ci.
Juste moi et les derniers des dinosaures.
Le jardin du pub était baigné de soleil. De délicieux effluves leur parvenaient depuis la cuisine. Ils trouvèrent une table à l'ombre d'un grand cèdre. Agatha poussa un soupir de plaisir à la lecture du menu.
Ah, oh, magnifique! Ils ont du rôti de bœuf et du Yorkshire pudding. Je n'ai pas besoin de prendre une entrée.
La serveuse arriva. Jérémy commanda une pinte de bière et un gin tonic pour Agatha.
Je crois que nous sommes prêts à commander aussi le repas. Madame va prendre le rôti de bœuf et pour moi, ce sera la tarte aux épinards avec salade. Et avec ça, une bouteille de merlot.
Alors comme ça, dit-il une fois la serveuse repartie, « Vous vous êtes encore retrouvée dans le feu de l'action ?» Agatha lui raconta rapidement ce qui s'était passé, sans les exagérations et fioritures habituelles. Jérémy jetait des regards anxieux autour de lui, comme s'il craignait un assassin tapis derrière un arbre.
« Vous êtes certaine qu'il ne va pas réessayer ?»«
J'espère que non. Parlez-moi de vous. Comment avez-vous connu James ?»
Il lui parla de son expérience en Irak. Il lui dit qu'il avait eu James pour colonel. Il avait une voix rauque et agréable. Agatha commençait à se détendre. Leur plat s'avérait excellent. En l'écoutant parler, Agatha se mit à rêver mariage. Fini les frayeurs et les tueurs embusqués. Mais une fois le repas fini, quand il la raccompagna à son véhicule, il ne laissa pas entendre qu'il désirait la revoir. Avant de se mettre au volant, elle lança
« Je peux vous inviter à déjeuner un jour de la semaine prochaine ?»
Il hésita.
« J'ai beaucoup à faire, je vous appellerai. »
Effondrée, Agatha démarra. Elle réalisa qu'elle ne lui avait même pas demandé s'il était marié. En s'engageant dans l'Isle Klein, elle constata soulagée que la voiture de James Lacey était garée devant chez lui. Elle s'arrêta brusquement, sortit de son véhicule et vint sonner à sa porte.
« Agatha !» s'exclama James. « Bienvenue. J'ai lu dans le journal ce qui t'était arrivé. Entre !»
En s'installant sur le canapé, pendant que James lui préparait un café, Agatha se dit que de l'avoir à nouveau comme voisin lui donnait un sentiment de sécurité dont elle avait bien besoin. Quand il revint avec le café, Agatha dit «
Je viens de déjeuner avec Jérémy Rutherford. Apparemment, il te connaît. »
« Oh, lui ? Je ne le connais pas si bien que ça. Je suis tombée sur lui à Merceuster 2 jours avant notre mariage. On s'était rencontrés en Irak. Je l'ai invité à la dernière minute. »
« Il est marié ?»«
Aucune idée. Encore à faire la chasse au mari, Agatha ? De mariage ne t'ont donc pas suffi ?
Je ne fais pas la chasse au mari ?
Peu m'importe, admit James.
Raconte-moi tes aventures. Agatha s'exécuta. Même si, à force de raconter toujours la même histoire, il lui semblait entendre une autre la raconter.
Quand elle acheva son récit, James paraissait inquiet.
J'ai l'impression qu'il va encore essayer de s'en prendre à toi. Pourquoi n'est-il pas un agent devant ta porte?
Je n'en sais rien. Wilkes m'en veut tellement qu'il a sans doute l'espoir que je me fasse zigouiller.
James se leva et se mit à arpenter la pièce.
Écoute, Agatha, dit-il enfin, tu ferais mieux de prendre tes chats avec toi et de venir t'installer ici.
Agatha scruta son beau visage et songea avec mélancolie à l'époque où une telle proposition l'aurait comblée de joie. Mais quel soulagement ce serait de se sentir en sécurité.
D'accord, fit-elle. Passe-moi les clés de ta voiture. Je vais la garer de manière à ce qu'il ne la voie pas, expliqua James.
Va faire ton bagage. Je te rejoins dans un petit moment pour prendre les cages des chats.
Agatha avait oublié à quel point James était maniaque. Elle devait toujours s'assurer qu'elle mettait un dessous de verre sous son café ou son ballon de rouge. Elle dormait dans la chambre d'amis. En plus de la couette, le lit était recouvert d'un couvre-lit et ce couvre-lit était bordé serré.
Agatha l'avait retiré et jeté sur le sol avant de constater le lendemain matin qu'il avait été remis en place.
James alla se mettre au travail après le petit déjeuner. Agatha alluma la télévision. James lui demanda de l'éteindre car le bruit le dérangeait. Elle sortit de son sac une liseuse électronique qu'elle alluma.
James leva les yeux.
« Je suis choqué de te voir te servir d'un de ces machins, Agatha. Tu ne penses jamais à tous ces malheureux libraires, obligés de fermer boutique à cause de ces aberrations technologiques ?»«
J'ai plein de vrais livres dans mon cottage, » grommela Agatha. « Retourne travailler et laisse-moi tranquille. »
Agatha commença un nouveau roman policier. L'intrigue était passionnante, jusqu'à ce qu'elle parvienne au passage où le héros, fâché avec son père, se met à raconter à la femme de sa vie, avec force détail, son enfance traumatisante.
Pfff, fit Agatha.
Pourquoi ? Demanda James, levant une nouvelle fois les yeux.
C'est toujours pareil dans les romans et les téléfilms, se lamenta Agatha. Le héros est en conflit avec son père et à coup sûr, tu sais que ça va donner lieu à une longue scène archi-sentimentale où ils se réconcilient. Bien sûr, ça évite aux dialoguistes d'avoir à trop se fouler, père et fils se contentant d'échanger de longs regards avec le cœur des anges en arrière-fond sonore.
Toi aussi, tu as une enfance pourrie, fit remarquer James à qui Agatha avait parlé de ses parents alcooliques.
Oui, mais je suis passée à autre chose, rétorqua Agatha d'un ton impatient.
Oh, et puis bon, puisque j'ai commencé ce fichu roman, je peux aussi bien le finir.
Mais elle avait décidément du mal à accrocher. Elle monta dans la chambre d'amis, prit son iPad et l'emmena dans le jardin, en profitant au passage pour faire sortir ses chats. Elle s'installa à la table et téléchargea un vieux James Bond avec Sean Connery. Son portable sonna alors que James Bond affrontait Blofeld.
C'était Tony.
« Vous êtes où ?» demanda-t-elle.
« J'habite chez James ces jours-ci. Je voudrais vous voir, » dit Tony.
« Je suis devant votre cottage. »
Agatha mit à contre-cœur le film sur pause.
« Passez donc !»
Elle raccrocha.
« Tony arrive !»
lança-t-elle à James en se dirigeant vers la porte d'entrée.
Du coup, il éteint son ordi, songea Agatha en se remémorant, non sans jalousie, le temps où James avait un faible pour Tony.
« Qu'est-ce qui vous amène ?»
s'enquit Agatha, en regardant d'un mauvais œil la ravissante tenue de Tony, short et chemisier blanc.
J'y réfléchis, dit Tony. Walt doit nourrir une obsession malsaine pour sa mère pour avoir fait subir un sort aussi épouvantable à John Hale.
J'ai lu votre rapport. Les tourtes à la viande ont été servies lors de la réception. En a-t-il donné une à manger à sa mère?
Et sa mère était-elle au courant?
Le fait est, s'empressa d'ajouter Tony, que je n'imagine pas que Walt, à supposer qu'il se cache quelque part, ne tente pas d'entrer en contact avec sa mère. La police ne s'attend sûrement pas à ce qu'il remette les pieds à la boulangerie. Alors pourquoi ne pas y aller à la nuit tombée, pour voir si on peut surprendre quelque chose ?
C'est risqué, fit remarquer James.
Moins risqué que de laisser Agatha ici comme une chèvre captive, à la merci d'une attaque de Walt.
Très bien, dit Agatha. On ira quand il fera nuit.
Ce soir-là, tous trois se faufilèrent en silence dans la ruelle sombre située à l'arrière de la boulangerie. James remarqua un portail en bois fermé par un gros cadenas. Il sortit de sa poche un trousseau de passe-partout et se mit à l'ouvrage. Ouvrir la serrure lui prit 20 bonnes minutes. Ils se retrouvèrent dans une cour, jonchée d'encombrants en attente d'être jetés.
James se tourna vers Agatha.
« Je devrais faire le guet près du portail pendant que Tony et moi allons voir si on entend du bruit dans la boulangerie. »«
Pourquoi moi ?» demanda Agatha.
Oh, ne discute pas.
Agatha regagna le portail à contre-cœur.
La rue principale du village était dotée d'un éclairage à l'ancienne. Les étoiles n'étaient donc pas masquées par la lueur jaune-orangée des lampadaires. Une belle soirée tranquille. Agatha eut la sensation d'une menace toute proche. Elle décida d'aller rejoindre James et Tony. S'apprêtait à le faire quand elle sentit un objet froid et métallique pressé sur son cou, tandis qu'une voix lui soufflait à l'oreille. « Vous avez intérêt à faire ce que je vous dis, ou je vous fais sauter la cervelle. » Agatha acquiesça en silence. « Vous allez leur crier que vous rentrez chez vous, tout de suite. »«
Je rentre chez moi !»
cria Agatha à l'intention des deux autres. À l'arrière de la maison, James poussa un juron. Des lumières s'allumèrent au fond de la boutique. La voix de Gwen se fit entendre.
« Qui est là ?»
James et Tony se tapirent derrière deux grandes poubelles. Une porte s'ouvrit et le faisceau d'une puissante lampe torche balaya la cour. Tony frissonna. Elle se faisait du souci. La voix d'Agatha lui avait paru bizarre. Enfin, la lampe s'éteignit et ils entendirent claquer la porte de la maison. Ils se hâtèrent de regagner le portail. Plus d'Agatha. Au début, ils supposèrent qu'elle s'était cachée en entendant la voix de Gwen. Ils se précipitèrent dans l'allée en appelant Agatha à voix basse. Puis, ne s'embarrassant plus de prudence, ils hurlèrent carrément son nom.
« Il a dû se passer quelque chose d'affreux !»
dit Tony.
« J'appelle la police !»
On avait poussé Agatha dans une poubelle à roulettes, elle-même chargée sur une brouette. Elle avait la bouche fermée par du ruban adhésif. Ses mains et ses pieds étaient liés. Elle avait entrevu avec horreur le visage de Walt avant d'être enfermée dans la poubelle en question. Laquelle, comme Agatha s'en rendit vite compte, était en train d'être poussée Dieu sait où. Des portières claquèrent, un moteur vrombit. Quel que soit le véhicule dans lequel elle se trouvait, il roula longtemps dans la nuit. Elle était en train de s'endormir, assommée de terreur, quand il marqua un arrêt brusque. Un bouillonnement assourdissant lui parvint aux oreilles.
« Les chutes de la mer, » songea-t-elle. « Il va me balancer dans la rivière. »
Elle entendit qu'on ouvrait les portes arrière et sentit qu'on la poussait hors du véhicule. Elle émit des gémissements étouffés par son bâillon, donna des coups de pied dans les flancs de la poubelle que Walt poussa au bord du pont qui enjambait les chutes.
« Ouais, vous ! Il est interdit de jeter des trucs dans la rivière !»
Walt fit volte-face. Un homme, occupé à promener son chien, s'était arrêté et le regardait fixement. Walt poussa la poubelle dans les chutes et sortit son arme à feu. Avant qu'il ait pu appuyer sur la détente, le chien, un puissant berger allemand, lui sauta à la gorge. Basculant en arrière, Walt trébucha sur le parapet peu élevé du pont et fut propulsé dans les chutes. Une balle, tirée trop tard, se perdit dans les airs. Il tomba, tomba. Sa tête heurta un rocher et son corps tourbillonna dans le bassin au bas des chutes avant de couler lentement. Plus haut, sur le pont, le propriétaire du chien appela la police. La poubelle survécut aux chutes et dériva paresseusement en contrebas. Elle allait couler quand un léger courant l'entraîna vers la berge où elle resta coincée sous un saule. Dans la poubelle, Agatha frissonnait et faisait ses prières. Elle était certaine que, d'une seconde à l'autre, Walt allait descendre lui mettre une balle dans la tête. Elle avait entendu le coup de feu. On avait déduit que Walt avait abattu l'homme qui l'avait ailé. La police passait au peigne fin Winter Parva et la campagne environnante. Un hélicoptère planait au-dessus de leur tête. Wilkes fulminait. Il savait qu'il y aurait une enquête afin de déterminer pour quelle raison il n'avait pas accordé à Agatha de protection policière. Interrogée, Gwen avait déclaré en larmes qu'elle n'avait pas vu son fils. Simon, Patrick et Phil avaient rejoint James et Tony. Soudain, Wilkes hurla un ordre et les voitures de police démarrèrent en trombe. « Suivons-les !» s'écria Tony. Comme l'a fait remarquer quelqu'un, sur un champ de bataille, tout le monde est croyant. Tapie au fond de sa poubelle, Agatha commença à marchander avec ce dieu auquel elle n'avait jamais vraiment cru. « Si tu me sors de là, je jure d'arrêter de fumer !» marmonnait-elle quand le hurlement de la sirène de police lui parvint aux oreilles. Claquement de portières, bruit de corps se frayant un chemin dans les fourrés. Agatha poussait des gémissements frénétiques sous son bâillon. « Allez chercher un couteau !» ordonna une voix masculine. « Le couvercle est équipé d'un système de fermeture. Vous m'entendez, Mrs. Raisin ?» Mugissement fébrile d'Agatha. On souleva le couvercle et les agents jetèrent des regards anxieux à l'intérieur. La poubelle fut hissée sur la berge, puis renversée sur le côté. Agatha hurla de douleur quand on l'en extirpa.
« Je crains d'avoir quelque chose de cassé !» dit-elle d'une voix étranglée, une fois débarrassée de son bâillon et de ses liens aux chevilles et aux poignets.
Elle fut étendue sur une civière et transportée jusqu'à une ambulance. Alors qu'on allait l'emporter, Wilkes lui jeta un regard noir.
« Espèce d'idiote !» cria-t-il. « Tout est de votre faute !»«
Ça suffit !» dit Bloggs, l'entraînant à l'écart.
« N'en jetez plus, on tient Simple. »«
Vous êtes sûr ?» haleta Agatha. « Et s'il s'échappe ?»«
Ça ne risque pas !» dit Bloggs. « Il est mort !»«
Dieu soit loué !» s'exclama Agatha Raisin.